Et bienvenue à l'église de Otigny, l'église protestante évangélique, ce matin. C'est super de vous voir, surtout si vous êtes là pour la toute première fois. Moi, c'est James, je suis stagiaire ici à l'église d'Otigny. Et merci d'ouvrir vos Bibles à l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Et avant d'étudier ce chapitre ensemble, on va prier. Prions ensemble. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, aussi je fus irrité contre cette génération. Notre Père Céleste, que tu nous donnes un cœur qui accepte tes mots, tes paroles, ce matin. Que tu nous aides de ne pas être comme cette génération-là, qui t'ont tenté et qui t'ont éprouvé. Que tu nous donnes des oreilles pour entendre ta voix ce matin. Au nom de ton Fils. Amen. Le Costa Concordia n'est pas resté dans nos mémoires pour de bonnes raisons. En 2012, ce paquebot de croisière qui a coûté 400 millions d'euros pour sa construction naviguait trop près de la côte d'Italie. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de ce bateau? Le bateau a heurté un roc et un trou de 50 mètres est apparu en dessous du bateau. L'eau a commencé à entrer à grande vitesse dans le bateau qui avait à bord plus de 4000 personnes. La panique a certainement commencé. Et pourtant, pour une raison ou une autre, le capitaine, est-ce que vous vous souvenez, le capitaine n'a pas donné l'ordre d'abandonner le bateau jusqu'à 30 minutes après l'accident. Mais le bateau avait déjà commencé à chavirer. Et 30 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Dévier de son cap n'est pas une chose recommandable, n'est-ce pas? Même avec un bateau si impressionnant, si cher, si moderne que le Concordia, il est dangereux de se laisser entraîner vers les rochers. Et les conséquences sont dévastatrices. Et c'est exactement le message de l'auteur de cet épître aux Hébreux. Il veut que les lecteurs originaux et nous aussi, que nous évitions de dévier du cap. L'auteur prend un mot tiré directement du désastre de Concordia. Regardons le chapitre 2 et le verset 1. Il dit, chapitre 2, verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Ce mot-là, « emporté » ou « entraîné » est pris directement du vocabulaire nautique. Et ce mot décrit un bateau qui a dévié de son cap et qui est pris petit à petit, par le courant, et en danger d'être frappé contre le roc. Et l'Épître aux Hébreux, ce livre magnifique et glorieux, c'est surtout un appel assez sobre, à vrai dire, aux lecteurs originaux et à nous aussi, qui est dans la même période de salut, à prêter attention au message concernant le Fils de Dieu, afin que nous ne soyons pas entraînés dans un tel désastre. Alors, pourquoi l'auteur écrit ce mot d'exhortation? Parce que quelques-uns parmi l'assemblée ont commencé à perdre courage dans la vie chrétienne. Est-ce que vous, parfois, vous perdez courage aussi? Pour employer le terme de l'auteur, plusieurs ont laissé tomber les bras. Ils ont des genoux flagellants dans la course chrétienne. Et sans doute, certaines d'entre eux se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de persévérer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à témoigner de Jésus? Parce que nous avons tellement souffert dans le passé pour notre foi chrétienne. Est-ce que peut-être nous devrions plutôt retourner à la religion juive, parce que c'était des juifs convertis. Revivre notre vie sous l'ancienne alliance, avec le temple visible, avec des prêtres visibles, des sacrifices visibles, plutôt que Jésus qui est invisible. Alors l'auteur veut, il se voit un peu comme un côte-garde, un garde-côte. Il voit que ce qui se passe pour certains, que petit à petit, comme le Concordia, sont en train d'être entraînés. Et maintenant, il les exhorte pour revenir sur la bonne course. Et donc, cet épître commence avec une exclamation tout à fait joyeuse dans les quatre premiers versets de chapitre 1. Et c'est notre premier point. La nouvelle alliance est maintenant arrivée dans le Fils de Dieu. La nouvelle alliance est maintenant arrivée dans le Fils de Dieu. Il y a quatre comparaisons que l'auteur fait dans le verset 1 et 2. Est-ce que vous pouvez les remarquer? Verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. L'auteur veut comprendre, faire comprendre ici qu'une chose, quelque chose de nouveau vient de se passer dans l'histoire. Alors que Dieu a parlé à de nombreuses reprises par les prophètes dans l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu a parlé à travers quelqu'un d'infiniment supérieur, c'est-à-dire le Fils. Et pourquoi est-ce que cette parole de Dieu dans le Fils est supérieure? Mais c'est à cause de qui il est. Verset 2. Le Fils, il est établi comme héritier de toutes choses. Verset 2. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Waouh, ce Fils, il est le créateur de tout. Les planètes, les étoiles, les hommes, il m'a créé et il vous a créé, ce Fils. Verset 3 encore. Le Fils, il est le reflet de sa gloire. L'expression de sa personne. Ici, nous lisons à propos de sa divinité, ce Fils qui vient de parler. Il rayonne la gloire de Dieu dans son être. Et ce mot-là, verset 3, empreinte, c'est un mot qui a été employé pour la reproduction, pour les pièces. C'était dans ce sens, Jésus est l'exacte reproduction, représentation, d'un autre pièce de monnaie, si vous voulez. Il est le copie exacte de Dieu, une empreinte parfaite, dit l'auteur, de Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez des différences dans les pièces? Non, ils sont exactement la même, pris de la même empreinte. Et dans le même sens, le Fils, quand tu vois le Fils, dit l'auteur, tu vois le Père lui-même. Verset 3, il soutient tout par sa parole puissante. Alors, dans ces derniers jours, Dieu a parlé d'une façon beaucoup plus majestueuse, d'une façon définitive et d'une façon supérieure à chaque autre époque dans l'histoire. La nouvelle alliance vient d'être révélée. Il a parlé dans le Fils, l'empreinte de sa nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire, parler, ici, dans le Fils? Parler. Oui, Dieu a parlé à travers les prophètes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a parlé maintenant? Est-ce que ça veut dire que Jésus est le porte-parole de Dieu? Que pendant sa vie sur terre, il a parlé en tant que Dieu pour donner les paroles de Dieu? Oui, je pensais ça. Mais dans l'Épître aux Hébreux, c'est aussi quelque chose de plus que cela. Qu'est-ce que « parole » veut dire dans l'Épître aux Hébreux? Lisons chapitre 2 et le verset 2 et 3. Pour comprendre ce mot « parole ». Qu'est-ce que « parole » veut dire? Chapitre 2, verset 2. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est très important ici que nous voyons que l'auteur est en train de décrire, de comparer tout au long de cette épître deux paroles. Deux paroles. Et ce n'est pas juste des paroles parlées par quelqu'un. Il y a d'abord, verset 2, la parole annoncée par l'intermédiaire des anges. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'alliance qui était conclue avec Moïse. C'est l'ancienne alliance. Est-ce que vous vous souvenez de Exode 19? Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les deux tablettes de pierre. Il y avait des sons de trompette, la tonnerre, la nuée, la terre tremblait et le peuple était en train de trembler aussi à cause de la crainte. Et c'était une parole capitale pour les Juifs. L'alliance où Dieu leur a donné le mandat d'être un royaume de prêtres pour amener la bénédiction à toutes les nations. Ça, c'était la première parole, en quelque sorte, la première alliance. Et selon les Juifs, le médiateur, le porte-parole entre Dieu et Moïse, c'était des anges. C'est pourquoi il mentionne des anges ici, la parole par l'intermédiaire des anges. Et si vous voulez lire après Actes chapitre 7 ou Galates chapitre 3, on voit exactement les mêmes choses, que les anges étaient les porte-paroles entre Moïse et Dieu, les intermédiaires pour la première alliance. Mais l'auteur ici compare Jésus avec les anges. Il est en train de comparer l'ancienne alliance avec une nouvelle alliance, l'alliance qui est maintenant venue dans le Fils. Alors, c'est ça que veut dire que Dieu a parlé à travers le Fils. Le Fils a conclu une nouvelle alliance. Et ça, c'est grande chose pour quelqu'un d'arrière-plan juif de lire ça. Jésus est le nouvel intermédiaire. Un nouvel intermédiaire avec une nouvelle alliance, c'est une nouvelle époque pour le peuple de Dieu. Et comment est-ce que cette nouvelle parole, alliance, est décrite? Verset 2. Pour tout résumer, il dit, cette alliance, c'est un si grand salut. Un si grand salut. Verset 3, pardon, de chapitre 2. Un si grand salut. C'est une longue histoire, n'est-ce pas? L'Ancien Testament. Si vous lisez Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, tous les prophètes, vous allez trouver cette phrase, les derniers jours. Et ça décrivait un moment où Dieu allait résoudre le problème du péché chez son peuple, donner le salut aux nations, établir un roi éternel pour son peuple. Et la longue histoire du peuple de Dieu nous préparait pour comprendre la nouvelle alliance, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Car comme vous avez peut-être remarqué, la Bible n'est pas un livre court. Mais l'auteur veut que nous comprenions que l'Ancien Testament était rempli de types, de petits modèles qui pointaient vers l'arrivée du Fils. C'était un peu comme, il dit, un peu comme ceci. L'auteur dit, c'était un type. Nous avons pas mal de ces choses à la maison, mais ça c'est un des jouets préférés de mon fils Max. C'est le modèle de voiture. Alors, est-ce que c'est une vraie voiture? Bah, non. On ne va pas retourner chez nous en ça, même si c'était de la vraie, ça serait chouette. Mais Ferrari 450. Est-ce que c'est une vraie voiture? Non. Et pourtant, est-ce que cela ressemble à la vraie voiture? Avec, si on ajoute les roues qui étaient enlevées. Mais ça ressemble fortement, n'est-ce pas? C'est juste un petit modèle de la réalité qui est beaucoup plus glorieuse. Et c'est ça, le type. Ça ressemble, mais c'est beaucoup moins glorieux. Et lorsque la vraie Ferrari 450 arrive à la porte de l'église protestante évangélique et vous entendez le son du moteur, nous pouvons dire « Waouh, ça c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, que le modèle. Ça c'est la vraie voiture. » Et en quelque sorte, c'est exactement ça avec les alliances. L'ancienne alliance, c'était un type. C'était pour nous pointer vers quelque chose qui était beaucoup meilleur. Des petites images. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des personnages qui sont juste des petits modèles de Jésus-Christ et de la Nouvelle Alliance? Par exemple, Adam, le chef de l'humanité. Nous avons un nouveau chef, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Les prêtres, dans l'Ancien Testament, Jésus est notre prêtre. Les prophètes, Jésus est le prophète, avec un P majuscule. La terre promise de Canaan. On cherche pas la terre promise de Canaan, on cherche une cité céleste. Le tabernacle. Jésus lui-même, dit Jean 1, il s'est tabernaclé. Il est venu habiter parmi nous. C'est le mot qu'il emploie. L'exode. Nous comprenons qu'il y a un meilleur exode en Jésus-Christ. Lui-même, il dit en Luc 9, c'est le moment pour l'exode. Avec un E majuscule. Les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, juste un petit modèle du grand sacrifice qui allait venir. Beaucoup de miniatures. Et maintenant, dans les derniers jours, on vit maintenant dans les derniers jours, on peut voir la vraie Ferrari 450. Ça, c'est la phrase au verset 2 qui est choquant. Dans les derniers jours, Dieu nous a parlé. C'est le moment de l'accomplissement de toutes ces choses. La réalité est ici. Le Ferrari est à la porte. Tout trouve son accomplissement en Christ, le Fils. Et en quoi consiste cette nouvelle alliance? On a un petit indice, verset 3 de chapitre 1. La nouvelle alliance tourne autour du fait que Christ est assis sur une chaise. Ça, c'est une phrase qui est chère pour l'auteur aux Hébreux. Le fait que Jésus est assis. Peut-être ça semble bizarre pour vous d'être assis. Mais c'est très, très, a beaucoup de signifiance. Parce que chapitre 1, verset 3, la deuxième moitié, après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Si vous ne le saviez pas, c'était vraiment fatigant d'être prêtre sous l'ancienne alliance. Parce qu'ils étaient toujours debout en train de faire du travail. Lorsqu'on est debout, on fait du travail. Lorsqu'on est assis, on ne fait pas de travail. N'est-ce pas? Et ils étaient toujours en train de faire des sacrifices, gardant un peuple pécheur dans une bonne relation avec un Dieu trois fois saint. Il n'y avait pas le temps pour une pause café. Ils étaient toujours en train de faire le travail, les sacrifices, encore et encore, d'essayer de perfectionner le peuple. Mais il n'y avait pas de perfection, parce que le sang des animaux ne satisfait pas. Mais Christ, est-ce qu'il est debout, en train de faire le travail? Mais non, il est, glorieusement, il est assis. Il a pu, à cause de son identité, effectuer, verset 3, la purification définitive de nos péchés. Et l'Ancien Testament, comme un petit modèle, se hâtait pour le jour, pour l'arrivée où le problème du péché serait réglé, la colère de Dieu contre les hommes rebelles réglée. Et maintenant, il est arrivé, le grand prêtre, assis à la droite de Dieu. Mais la question pour une croyante d'arrière-plan juif à ce stade, après les quatre premiers versets, c'est « Est-ce que c'est vrai ? » Est-ce que l'auteur dit des bêtises ici ? Qu'un fils allait venir qui est supérieur aux anges ? Est-ce qu'il a raison de dire ça ? Est-ce que l'Ancien Testament témoignait lui-même de quelqu'un qui allait arriver et conclure une meilleure alliance ? Parce que pour dire ça, c'est grand-chose, pour dire une meilleure alliance qu'à l'alliance conclue avec Moïse. Et l'auteur dit oui, tout à fait. Au verset 5 à 14, et c'est très sage, il nous donne plein de références tirées de l'Ancien Testament pour montrer combien le Fils était toujours supérieur aux anges. Et donc, par conséquence, la nouvelle alliance est beaucoup plus supérieure à l'ancienne alliance. C'est notre deuxième point. L'Ancien Testament a témoigné d'un meilleur médiateur dans le Fils. Les deux premières citations au verset 5 viennent du psaume 2 et 2 Samuel 7 et montrent surtout la relation intime que Dieu le Père a avec le Fils. Verset 5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon Fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Est-ce que nous voyons ici alors, l'Ancien Testament lui-même a témoigné de l'arrivée d'un fils. Un fils dans l'intimité du Père qui allait venir, un fils beaucoup plus supérieur aux anges. Parce que auquel des anges Dieu a dit, tu es mon fils. Mais non, seulement le fils. Les deux citations suivantes montre l'inverse, si vous voulez. Elle montre l'infériorité des anges par rapport au Fils. Verset 6. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né, ça c'est le Fils, le premier-né c'est l'héritier dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, est-ce que vous voyez, l'Ancien Testament a déjà dit que les anges sont inférieurs au Fils. Même l'Ancien Testament montre qu'ils prosternent devant le Fils. Et verset 7, les anges ne sont qu'des serviteurs du Fils. Et ensuite, la troisième paire de citations, au verset 8 à 12, parle surtout de la nature éternelle du Fils, une nature bien plus supérieur aux anges. Verset 8, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ou verset 11, eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Alors, en comparaison avec les anges, le Fils n'est pas quelqu'un de créé. L'Ancien Testament parlait d'un Fils qui était éternel. Et qui ne veut pas disparaître comme les cieux ou ce monde. Il dit, toi, tu restes là. Le Fils, il est éternel. Et ça, c'est d'une importance capitale dans l'Épître aux Hébreux. Parce qu'un Fils éternel, comme un prêtre éternel, ça veut dire qu'on peut bénéficier d'un salut éternel. Et il intercède pour nous tous les jours de notre vie. Tous les prêtres de l'Ancien Testament, ils mouraient. Imaginez cela. Ça, c'est un grand problème, n'est-ce pas? Si le seul médiateur entre toi et un Dieu trois fois saint, il meurt, il n'est plus. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut appeler un nouveau médiateur, un nouveau prêtre, toujours et toujours. Mais le Fils, il est éternel. Le grand prêtre est arrivé. Et puis, les citations finissent au verset 13. Où l'auteur cite le psaume 110. Et c'est un psaume très important pour l'Épître aux Hébreux. Auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marche-pied. Alors nous lisons, le Fils est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la place d'honneur. Et s'il y avait une fête, d'être assis à la droite, ça veut dire ça, c'est la place d'honneur. Et le Fils est là, à la droite de Dieu lui-même. L'Ancien Testament a témoigné donc d'un Fils que Dieu allait donner toute autorité à ce Fils, toute domination. Alors, assez de preuves. Pensez-vous que le Fils est bel et bien supérieur aux anges? À tous égards, on voit ici que le Fils, l'Ancien Testament lui-même a témoigné d'un Fils qui allait venir beaucoup supérieure aux anges, qu'elle ait conclure une meilleure alliance, une alliance définitive et glorieuse. Alors, quelle est l'application pour nous, personnellement? Quelle est l'application de tout cela qu'on a vu? Peut-être ça semble un peu théorique, bizarre, qu'on parle des anges. Comment est-ce que ça change ma vie de tous les jours? Mais je suis personnellement choqué par ce qu'on lit. Pour l'application, chapitre 2, verset 1. C'est pas du tout la conclusion à laquelle on s'attend, je pense. Chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés ou emportés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges, ça c'est l'ancienne alliance, a été confirmée, et que toute transgression, toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? L'auteur choisit ici d'employer la grandeur de cette nouvelle alliance pour souligner combien plus la négligence sera punie. Pour les lecteurs originaux de l'Épître, dont quelques-uns étaient tentés de jeter l'éponge dans la vie chrétienne, de témoigner de Christ, l'auteur rappelle ce que Dieu a fait pour ceux qui ont quitté l'ancienne alliance. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire fameuse du peuple dans le désert? L'auteur va le traiter au chapitre 3. Juste après reçu l'ancienne alliance, le peuple de Dieu a décidé de tourner le dos. Dire « Non merci Dieu, on ne va pas écouter ta voix. » Détourner le dos à son alliance. Ils se sont détournés de la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais toute transgression, toute désobéissance ont reçu une juste sanction. Cette génération-là, en fait toute la génération, pas la majorité, mais toute la génération est morte. Et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Le point principal pour nous alors ce matin, c'est que Dieu ne traite pas à la légère la désobéissance à ses alliances. Et voici la chose pour nous. Si c'était le cas sur l'ancienne alliance, alors l'implication pour nous qui sommes dans les derniers jours, qui ont vu la vraie Ferrari qui arrive à la porte, c'est le verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons la nouvelle alliance? La meilleure alliance, le si grand salut. Si Dieu a puni le peuple avec la mort physique pour la négligence de l'ancienne alliance, alors à plus forte raison, c'est fort, n'est-ce pas? Nous pouvons être sûrs qu'il va punir tous ceux qui tournent le dos à la nouvelle alliance. Parce que la réalité de toutes ces promesses est arrivée. L'alliance conclue non pas avec des anges, mais avec Dieu lui-même, avec Dieu le Fils, qui a dû verser son sang aux mains des pécheurs pour l'achever. Pensons-nous que Dieu va traiter légèrement le fait que son Fils a dû devenir homme, mourir, et prenant tout le jugement de Dieu sur ses épaules? La négligence de cette nouvelle alliance va sûrement impliquer une plus grande punition, non physique, mais éternelle, dans l'enfer. L'auteur dit, notre Dieu est un feu dévorant. Vous voyez, est-ce que vous voyez ici qu'une meilleure alliance mérite plus d'attention? Nous devons d'autant plus nous attacher à ce message. Et faire attention, pas comme les Israélites dans le désert. Mais nous devons nous attacher à cette alliance. Et je suis surpris par ça, par cette application. Je ne sais pas si c'est surprenant pour vous. Alors pour terminer, qu'est-ce que ce passage a à nous dire personnellement? Je pense que d'abord il y a une note de joie, n'est-ce pas, dans ce passage? La joie de savoir que Dieu, effectivement, il a parlé. Dans ces derniers jours, il n'a pas laissé le monde sans sauveur, mais celui qui est le reflet, l'empreinte de sa nature. Lorsqu'on voit le Fils, on voit le Père, il est venu lui-même. Et ce sauveur, il est assis, gloire à Dieu, il est assis, son travail est fini, pour accomplir le pardon de tous nos péchés. Gloire à Dieu. Et il intercède pour nous, même ce matin. Si vous confiez en lui, Jésus-Christ, ce matin, dit l'auteur aux Hébreux, il prie pour vous, il prie pour moi, pour notre persévérance dans la foi. Quelle joie, quelle assurance qu'amène cette nouvelle alliance. Mais il y a également, on ne peut pas l'éviter, une notion très sombre ici pour nous, un avertissement. Peut-être un des avertissements les plus sévères que je connais dans la Bible. De ne pas être entraîné loin de ce message. Alors, une question honnête pour nous, est-ce que nous sommes attachés à ce message? Est-ce que nous allons dévier de notre cap? Je ne sais pas quelles sont les tentations pour nous personnellement dans cette salle, les choses qui essaient de nous dévier de la course chrétienne. Peut-être c'est un loisir qui nous amène dans le péché. Est-ce que c'est ça? Quelque chose que nous regardons, nous aimons lire, qui nous amène dans le péché. Peut-être c'est un rêve, c'est un désir que vous avez pour accomplir dans votre vie, que vous savez ça ne plaît pas à Dieu. Peut-être c'est une relation avec un homme ou une femme, et nous savons que ça honore pas Dieu. Mes amis, combien le péché est trompeur, n'est-ce pas? Le péché nous promet beaucoup de bonnes choses, et la joie, et la vie. Mais c'est pas la vraie joie, ou la vraie vie. En réalité, le péché est en train de nous dévier, nous attirer vers les rochers. Qui que nous soyons dans cette salle, nous avons tous besoin, je pense, moi en premier, d'entendre cet avertissement. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Dire à Dieu, je veux plus de ton fils. Le fait qu'il est mort pour nous sauver, bof, c'est pas grande chose. Dieu y prend ça très au sérieux. Plus au sérieux qu'on peut imaginer. Et il ne va pas laisser de telles personnes échapper, il dit. Et c'est un avertissement en amour. Il faut que nous comprenions cela. L'auteur dit ces choses pas pour nous attrister, mais par amour pour nous encourager sur la bonne voie. Et le moyen de rester, peut-être on a cette question pour terminer, comment rester sur la bonne voie? Mais l'Épître aux Hébreux, encore, il nous encourage de voir, de fréquenter, de se rassembler avec nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas l'application qu'on pense. De nous rassembler. Il dira au chapitre 10, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit au chapitre 3, dernière citation, « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour même, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alors, comment va notre temps avec d'autres croyants ici, dans cette salle? Est-ce que nous voyons d'autres croyants pendant la semaine? Voilà une bonne question à réfléchir pendant le spaghetti de cet après-midi. Est-ce que nous voyons d'autres croyants pendant la semaine? Est-ce qu'on peut dire on est exhorté chaque jour par nos frères et nos sœurs? Il n'est pas en train de parler de regarder des vidéos sur YouTube non plus. Est-ce que vous faites ça? C'est une bonne chose, mais ça ne peut pas remplacer, dit l'auteur aux Hébreux, de voir, de se réunir avec nos frères et nos sœurs. Est-ce que je pense que je peux personnellement survivre en les voyant seulement le dimanche? L'auteur dit, attention, faites attention. L'église locale, c'est le moyen donné par Dieu pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est l'endroit où on peut être rappelé, le seul endroit, n'est-ce pas? On est rappelé de l'évangile des vérités éternelles. Alors, pourquoi pas prendre ce café avec la personne qui nous a invités pour la énième fois? Et cette fois-ci, dire oui, pourquoi pas? Ou peut-être inviter ce couple nouveau à l'église pour manger du spaghetti chez nous le dimanche, après le culte. Car Dieu vient de parler dans son Fils. C'est un message trop précieux pour négliger. Prions ensemble pour terminer. Nous te louons, notre Père Céleste, pour ton Fils, le Créateur de tout, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Merci parce qu'il est devenu semblable à nous pour vaincre le mal, le péché, la mort pour toujours. Merci parce qu'il nous conduit tous les saints vers la cité céleste. Et merci parce que tu vas nous garder sur le chemin. C'est notre prière ce matin, notre Père, que nous négligions pas l'Église locale. L'Église locale que tu nous as donnée pour nous exhorter, nous inciter aux bonnes œuvres. Que tu nous aides à prêter attention à tes paroles ce matin. Nous prions cela pour la gloire de ton nom. Amen.